Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur le 232e numéro de Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 12 février 2015, bientôt la Saint-Valentin. Et ce sera la Saint-Valentin le jour où vous écouterez cette émission puisqu'elle sera disponible le samedi 14. Et pour la Saint-Valentin, nous avons réservé un programme de charme avec la sortie du Darth Vader chez Marvel. Que de charme, que de gloire, que de...
Pour l'occasion, il a un costume tout rose.
Cette saison. La partie indé reviendra elle aussi sur du charme, de la volupté, de l'amour avec le Walking Dead 137 et sa scène magnifique, on en parlera tout à l'heure. Et bien sûr, chez DC, c'est Harley Quinn qui s'est prêtée au jeu de la Saint-Valentin avec un numéro spécial. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir pour vous présenter tous ces comics dédiés à l'amour, à la fraternité et à la carnalité.
Au sexe.
Ouais, je voulais le dire de façon plus propre, mais je... Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
L'homme qui sent la cacahuète.
Il paraît.
Et Mister Ron Ebony.
L'homme qui sent la cacahuète.
Non. Mais non, tu peux pas commencer une émission comme ça.
Surtout pour la Saint-Valentin.
Tu peux pas.
Il sent quoi, Ebony? Il sent la cacahuète.
Bon, bah voilà. T'aurais pu dire la carotte, quoi. Tu sais, Ebony, lapin, la carotte, merde. Je sais pas, il y avait un truc à faire, quoi.
Bon, entre carotte et cacahuète, c'est pas loin.
Mais ouais, mais vends-leur du rêve aux auditeurs, vends-leur du rêve.
Et bah, ma cacahuète sur la carotte.
J'espère que...
Ou sa carotte sur la cacahuète, je sais pas.
Mon dieu. Dans quoi me suis-je embarqué ce soir?
Je sais pas lequel je préfère. Oui, si, il vaut mieux que les carottes sentent la cacahuète. T'es pas obligé de les manger. Enfin bref, c'est toute une réflexion.
Tout un poème ce soir. J'espère que tu vas nous vendre beaucoup plus de rêves avec la première review de ce soir. C'est du Marvel, c'est la grosse sortie de la semaine. Il s'agit de Darth Vader numéro 1, Bunny.
Alors,
Et oui, tu peux pas reprendre ton sérieux après ça.
De la quéquette râpée ou pas.
On vient de perdre Bunny, ça y est, en direct.
Oh putain. Alors,
Le moment de Darth Vader.
Donc c'est Darth Vader qui est écrit par Kieron Gillen tout de même et avec des dessins de Salvador Larroca. Alors déjà graphiquement c'est super beau. Personnellement, j'ai même préféré à mon grand étonnement Larroca sur Darth Vader à John Cassady sur Star Wars. J'ai trouvé qu'il était plus inspiré.
Je pense que c'est les carottes qui poussent au Salvador, quoi.
Non, mais point de vue décor, point de vue personnage aussi.
C'est magnifique.
Il s'est fait plaisir. Voilà, il y a du gros fan service. Il s'est fait plaisir. C'est magnifique. Il y a plein de personnages. On reconnaît vraiment plein de visages connus qu'on a pu voir dans les films. Et donc Kieron Gillen qui nous écrit
Mais pas que, il y a aussi des nouveaux visages.
Oui, il y a aussi des nouveaux visages, effectivement. Mais Kieron Gillen nous présente un Darth Vader qui suit à travers ses aventures, ses complots pour.
Oh là là, le mec qui meuble. Bon, Darth Vader, il est pas bien, franchement, il va pas bien. Un petit coup de déprime.
Ça se passe entre l'épisode 4 et l'épisode 5, juste après l'explosion de l'étoile noire.
Exactement. Après le vrai premier original, on va dire, voilà. C'est la première trilogie, celle qui compte.
Il y en a d'autres.
Non, je crois pas.
Et après la première grosse défaite pour Vador.
Pour ça, il est pas bien, il est chafouin, le monsieur, il est chafouin.
Exactement. Et donc là, il se rend, c'est Jabba the Hutt pour justement travailler avec lui, enfin d'une certaine manière. Et c'est assez marrant cette scène. Moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait marrer. Darth Vader qui reste stoïque face à Jabba, qui essaye de le déstabiliser et puis peut-être d'essayer de le manipuler. Aussi je craignais un petit peu justement, comme c'est Karen Gillan qui est au scénario et qui a par exemple scénarisé Loki, c'était quand même très très verbeux un épisode de Loki, quand on rentrait dedans fallait bien 20 minutes pour en venir à bout. Là c'est très fluide cette lecture. Son Darth Vader, on a vraiment encore une fois la voix de Darth Vader qui nous arrive en tête quand on lit cet épisode. Ouais, il est bien, il est très bien écrit, très bien, je dirais, représenté dans ce comic. Après on le voit notamment avec son maître, hein, je sais plus comment il s'appelle.
Palpatine,
l'empereur.
Voilà, l'empereur, exactement. Et puis il fait appel pour retrouver Luke Skywalker et sa clique à un personnage bien connu de Star Wars.
Clac.
Qui est avec aussi un nouveau personnage. Un nouveau personnage. Je vais pas décrire ce que c'est, mais un nouveau personnage qui, ma foi, visuellement, est aussi pas mal, quoi. Donc, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un agréable moment à lire ce comic. J'avais l'impression de regarder un petit morceau de film, voilà, un petit morceau d'un nouvel épisode Star Wars avant l'heure. Et gageons que, d'ailleurs, je vais sans doute préférer lire ces comics que voir les nouveaux au cinéma. En tout cas, voilà, c'est toujours une lecture très agréable. Moi, perso, c'est mon coup de cœur cette semaine. J'ai vraiment apprécié ce Darth Vader numéro 1, plus encore que les deux premiers Star Wars.
N'est-ce pas une mini, ce Darth Vader? J'ai un doute.
C'était prévu comme étant une mini, et ça a été annulé finalement, et ça va être un ongoing.
Bah, tant mieux, parce que je trouve que c'est déjà un petit peu plus fouillé scénaristiquement que Star Wars. Hein. Vraiment, Star Wars, c'est service minimum niveau scénario. Là, on suit un peu plus ce que fait Darth Vader de son côté, et il y a plus d'intrigues qui se mettent en place, hein,
ouais,
plus
pas de
plots.
Ouais.
C'est finalement, il y a quand même pas mal de mise en place, et j'ai hâte de lire la suite.
Ouais, bah, c'est également mon coup de cœur de la semaine. Donc je me joins à toi, Benny. Très bonne lecture, un très bon moment, pas mal de fanservice effectivement, mais aussi beaucoup d'intrigues qui se développent, des nouveaux personnages assez mystérieux. Comme tu dis à la fin, tu parles d'un duo de personnages qu'on voit apparaître. J'ai trouvé ça assez excellent, que ce soit au niveau des designs et au niveau aussi du parallèle qu'on pourrait faire du coup avec d'autres personnages qu'on connaît. Et j'ai trouvé ça assez malin. Son Vador est très très bien écrit. Toute la scène avec Jabba est assez excellente. Donc non, vraiment vraiment très cool. Et La Roca, du grand La Roca, avec de très belles planches, une belle double splash page à la fin qui envoie du pâté. Et voilà, une super lecture. Donc à noter que ce numéro qui est sort après les deux premiers Star Wars époque Marvel se passe chronologiquement également après ces deux épisodes, puisqu'il y est fait brièvement en référence. Donc,
Même totalement en référence.
Ouais, voilà. Donc c'est
ça ajoute à ce que l'empereur reproche à Vader.
Et exactement. Et du coup c'est intéressant. Je trouve que la façon dont ils ont sorti leur comic est assez malin, et ça incite du coup à peut-être suivre les deux séries en parallèle. Donc ça c'est plutôt une bonne chose.
Ça a une très bonne idée, ouais.
Ouais. Ou ça incite.
C'est un site.
Il y en a partout, sur toutes les pages.
Bon jeu de mots.
Je vous avouerai que moi j'ai été perdu, par contre. Peut-être que ma connaissance ultra limitée de l'univers Star Wars me fait défaut. Sur la fin, j'ai été perdu. C'est peut-être ma fatigue en ce moment qui fait que voilà. Alors, c'est très propre, les scènes d'action sont superbes. On sent que Kieran Gillen a vraiment laissé la place à La Roca, parce qu'on a beaucoup de pages où il n'y a pas de dialogue, c'est juste de l'action, et ça se suffit simplement. Dans la tête, on se fait nous-mêmes les bruits du sabre laser et des blasters.
Mais je sais ce que tu t'es dit. Tu t'es dit, que vient faire Fixer avec l'empereur?
Non, mais franchement, sur la fin, ça part d'un général qui va reconstruire
la prochaine étoile noire,
la nouvelle Death Star. Là, franchement, j'étais à l'ouest.
C'est vraiment beaucoup de fanservice, en fait. Ils font référence à une scène dans l'épisode 4, justement, où il y a, y a une réunion avec tous les mofs et les généraux, et voilà, il parle de, il nomme un de ses généraux qui était justement pas très confiant envers l'étoile noire, et donc il fait pas mal de références au film. Et
oui, non, c'est juste ma connaissance, je pense, de l'univers Star Wars qui me fait défaut, hein, clairement. Ce qui m'a un peu perdu.
Je m'en souvenais plus personnellement, mais bon, je me suis dit, oh, c'est pas très grave. Enfin, tu vois, j'ai compris malgré tout. Enfin, ça m'a pas gêné dans ma lecture.
Ah ben, je dis pas que ça m'a gêné, je dis juste que ça m'a un peu perdu. Et j'essaye d'être le plus honnête possible avec les auditeurs. Voilà, ça m'a un peu ennuyé parce que bah, j'en avais un peu rien à foutre, quoi. J'ai envie de voir Darth Vader casser des gueules, et voilà, c'est tout. C'est la seule chose qui me fait acheter ce truc. Le nouveau personnage, oui, moi le côté fan service, par contre, là, me dérange un peu. Mais bon. Ça, c'est le. Disons que c'était. Pouvait pas faire plus simple comme personnage. Visuellement, il est très propre. Mais c'est juste que. On avait déjà les deux faces d'une même pièce, avec ce personnage que Darth Vader va engager. Pourquoi créer un deuxième qui est aussi l'autre face de la même pièce, quoi?
Je sais pas. Moi, je trouve ça amusant, au contraire.
Enfin... En plus, honnêtement, je déteste ce personnage, donc ça n'arrange rien.
Ah, bah, c'est pour ça aussi.
Oui, je peux pas en parler parce que là, les gens qui écoutent l'émission régulièrement.
Ouais, je suis même surpris qu'il n'y ait pas eu encore la série d'annoncer avec ce personnage uniquement en personnage principal.
Non, ça personne va, ne veut d'une série Jar Jar Binks, hein, s'il te plaît.
Voilà.
Et puis, un dernier truc, les différentes séquences qui sont pas forcément placées dans l'ordre chronologique avec un jour avant, un jour après. La dernière séquence, avec donc là le moment où il engage ces deux personnages-là, je n'ai pas compris quand elle se passe.
C'est après, après l'échange avec Jabba.
Ah, c'est après, d'accord. Ouais. Parce que j'étais pas sûr.
Parce qu'en fait, c'est Jabba qui propose ces personnes-là à Vador, justement.
Eh ben voilà, ben c'était l'info qui me manquait, en fait. C'était vraiment l'info qui me manquait. C'est con, comme quoi, voilà, une info peut, moi, me rendre la fin un petit peu moins spectaculaire qu'elle ne l'était. Bref, ça reste quand même une très bonne lecture, et vraiment, je vous encourage à découvrir ce Vader.
Gros bail.
Pour moi, gros bail, ouais. C'est somptueux, et ça mérite vraiment le coup d'œil.
On va passer à la suite, du coup. Alors, moi, ça ne sera pas mon coup de cœur de la semaine, hein, contrairement à vous. Mais voilà, c'est un bon bail quand même. On passe donc à Wolverines numéro 6, la série hebdo de Marvel, centrée sur l'univers Wolverine. Wolverine qui, décidément, sort plus de comics quand il est mort que quand il est vivant. Toujours. Non, ce n'est pas scénarisé par Charles Soule, malheureusement, c'est scénarisé par Ray Fawkes, et c'est peut-être pour ça qu'il y a le problème. Jason Masters est au dessin, Guy Major à l'ancrage. Ah, la couleur, pardon. On rappelle très vite la situation. Ces membres qui travaillent pour... alors, les membres proches de Wolverine, hein, qui travaillent pour ces membres du Paradise, hein, ces anciennes armes X échappées récemment. Bref, relisez la série si vous avez raté des bouts. Eh bien, ces membres vont aller cambrioler Sinister afin de récupérer le corps de Wolverine, ainsi que le bras et l'œil de Daiken en prime, c'est le petit bonus. Et pour ça, engage une nouvelle personne que l'on découvre, un fantomel, c'était il y a 2-3 épisodes de cela. Le casse est en cours, et à la fin de l'épisode dernier, se pointer les X-Men, venus foutre un peu le bordel là-dedans, en tout cas une partie des X-Men, hein, Storm, Colossus, Firestar et Nightcrawler. Et c'est le bordel. Ça tape dans tous les sens. Sinister fait des plans avec un des membres du Paradise, hein, puisque c'est comme ça qu'ils sont nommés sur la page de récap. Les X-Men tapent dans tous les sens. Les personnes proches de Wolverine, les fameux Wolverines, tapent dans tous les sens. Il y a 2-3 bonnes idées, hein, comme comment éviter qu'on vous révèle un nom de code. C'est pratique quand on a un pouvoir auto-guérisseur. Sorti de là, c'est un peu... Je sais pas, je me suis un peu ennuyé.
C'est mou, effectivement. C'est mou alors qu'il se passe beaucoup de choses, mais c'est comme tu dis, les scènes d'action, je les ai trouvées assez peu claires. Au niveau de l'utilisation de l'espace, par exemple. Après, ça joue beaucoup, c'est les dessins, je trouve qu'ils sont vraiment pas top. Hein. Je veux dire, après un premier numéro qui nous avait mis plein la vue avec un très bon dessinateur, après, c'est vraiment chaque numéro, ça change de dessinateur et ça casse un peu. L'arrivée des Amazing X-Men à la fin du numéro précédent, j'avais trouvé l'idée intéressante parce que j'étais persuadé que c'était une illusion de Fantomel, en fait. Et finalement, j'étais un peu déçu de voir comment ça se développe, cette histoire. Il y a tout un pan aussi qui était intéressant dans le précédent numéro qui concernait par exemple les clones de Ben Reilly et compagnie. C'est complètement évacué dans ce numéro. Voilà, il y a plein de. Il y a trop de choses et en même temps les choses intéressantes ne sont pas suffisamment exploitées. Et j'avoue que jusqu'à présent je trouvais la série assez plaisante, mais j'étais très déçu par ce dernier numéro qui au final en plus arrive sur un statu quo un peu bidon avec un.
Mais alors, c'est quoi ce cliffhanger de merde?
J'ai rien compris non plus. Alors c'est juste le design le plus moche possible pour le personnage et je sais pas pourquoi elle a une couche culotte mais c'est trop bizarre quoi. Enfin j'ai pas compris la dernière page. Je suis un petit peu comme toi Steve et j'ai vraiment l'impression qu'il manque quelque chose quoi. Il manque des pages.
Mais j'ai l'autre impression que j'ai eue. Alors est-ce que c'est Sinister qui est infiltré? Je me dis qu'il peut y avoir que ça. Parce que si c'est pas ça, je comprends rien.
Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Donc, voilà.
Alors, mention spéciale à la page juste avant, avec une Lady Deathstrike qui...
oui, c'est vrai.
Qui
s'énerve.
Qui s'énerve sur Sinister. Mais alors, si tu regardes bien dans le fond, Sabertooth a de la barbe. Joli faux raccord. Sabertooth, il a une barbe qui a poussé d'un coup,
c'est
comme
vrai.
Ça.
C'est vrai. Non, mais graphiquement, c'est vraiment bof. Hein.
Alors, mais... Ouais, voilà, c'est. Non, les visages sont relativement propres, mais c'est peut-être un peu trop lisse, quoi. Les fonds sont vides.
Parfois, les corps ont des anatomies un peu particulières. Enfin, bon.
Mention spéciale, là, donc, à la dernière page.
C'est ça. Donc, j'avoue,
avec les fameux
8
abdos qu'on a tous.
Ouais, je suis vraiment déçu quand même par ce numéro. Pour moi, c'est vraiment un tout petit check-it.
Mais ouais, mais vivement que Charles Saul revienne, quoi. Ray Fawkes, c'est pas la hauteur. Ray Fawkes, c'est pas à la hauteur du tout. C'est décevant. C'est pas mauvais, c'est décevant. Tout petit check-it aussi. J'espère que la série va remonter parce qu'elle démarrait très bien et ça me fait chier que ça tombe aussi vite, quoi. Je m'attendais à ce que ça mette un peu plus de temps à tomber et on parlait des chiffres de vente de la série hier soir, hein, lors du Weekly News. Eh bien, ça m'étonne pas du tout, quoi. Et ça va continuer de descendre si ça continue sur ce chemin-là. Mauvais calcul, hein, de la part de Marvel, je pense, d'avoir mis Ray Fawkes là. Mais
bizarre,
bon. On passe à la suite avec toi, Bruno. Tu vas nous parler du 24e épisode de Guardians of the Galaxy, qui est un tie-in, un crossover en cours.
Oui, c'est la deuxième partie de Black Vortex. C'est écrit par Brian Michael Bendis avec des
c'est
dessins
plus
de
qu'un tie-in, du coup.
Oui, avec des dessins de Valerio Chiti. Et ça reprend effectivement tout de suite après le précédent numéro de Black Vortex. On a une Gamora qui s'est soumise en fait au contrôle du Black Vortex et du coup a pu développer des pouvoirs cosmiques faramineux qui lui permettent d'éliminer en fait les menaces qu'on a vues à la fin du numéro précédent. Et après ce numéro, il va s'intéresser après une petite téléportation sur une des lunes de Spartax. On a tout le petit groupe de gentils qui se retrouve à débattre si oui ou non il faut utiliser cet artefact ou s'il faut le détruire. Avec voilà tout pas mal d'échanges des personnages par rapport à ce qu'ils pourraient peut-être faire en potentiellement utilisant plus de pouvoir, en développant des capacités nouvelles, et d'autres qui pensent que voilà un tel pouvoir ne pourrait amener que de mauvaises choses. Dans ces dialogues, il y avait
je comprends pas qu'ils aient pas été chercher Spider-Man, quoi. Grand pouvoir, grande responsabilité, enfin classique, quoi.
C'est ça, ça aurait pu, ouais. Il y a des petits dialogues qui font mouche, je trouve, avec des petites références. Par exemple, ils font une comparaison avec la force du phénix, voilà, c'était assez amusant. C'est comme leur point Goodwin, en fait, pour eux, c'est le point force du phénix, quoi.
Godwin, en fait.
Godwin, oui, tu vois. Ouais, c'est une bonne victoire. Et donc, en fait, après, il y a des petites choses sympas aussi concernant Spartax et ce que veut faire Mr. Knife, qui a actuellement comme acolyte Sane, le fils de Thanos, qui est donc dans cette série actuellement, et qui manigance avec un des anciens suppôts de Thanos qui a fait sécession avec son ancien maître.
C'est vraiment dommage qu'il s'appelle pas Thanos, hein.
Ah oui, c'est le petit suppos, Thanos,
hein, les suppos
ouais.
de Thanos.
Ouais, c'est ça. Et c'était le frère de Thanos.
Celle-ci.
Thanos, mais bon. C'est assez plaisant, même si c'est quand même assez brainless. Ça va pas chercher loin. Alors, voilà. Si vous avez envie de voir des personnages passer en mode Super Guerrier 3, Et ben,
non, ma foi, non, j'ai pas tellement envie.
Vous pouvez vous jeter sur ce comics puisque vous allez y découvrir des nouveaux designs dignes des Phoenix 5. Voilà.
Bendy s'aime bien ça. Hein.
Voilà. Donc, ça m'a laissé un petit peu dubitatif, mais c'était pas non plus une purge et c'était pas vraiment déplaisant. Il y avait, il y a quand même de l'action, c'est joli en plus. Les dessins de Valerio Chiti, je trouve, c'est assez efficace. Et voilà, je suis curieux de voir là où ils veulent aller avec cette histoire. Après, c'est vraiment du comics grand spectacle, blockbuster, un peu brainless.
Et donc, si c'était nulle part, la destination?
C'est peut-être juste Secret World. Pas Secret World, qu'est-ce que j'ai dit? Secret Wars. La destination, mais en attendant, une lecture plaisante. Donc je vais dire un petit bail pour ce numéro.
On passe à toi, Benny. On parlait de Spider-Man il y a quelques secondes. Eh bien, c'est l'heure d'en parler vraiment plus en complet, puisque c'est le Spider-Man numéro 14 qui est sorti cette semaine.
Ouais, alors, censé être la fin de Spider-Verse, je dis bien censé, puisque finalement, j'ai envie de dire ah bon, en voyant la fin, puisque bon, bah, ça se termine abruptement, et puis visiblement, on aura un épilogue, donc c'est pas vraiment fini au fait.
Ah, puis on sait qu'on aura une série tie-in à Secret Wars, toujours dans le monde de Spider-Verse, alors bon.
Ouais. Dan Slott est au scénario, Giuseppe Camuncoli et Olivier Coipel sont au dessin. Alors, évidemment, hein, Olivier Coipel. C'était couru d'avance, autant il avait dessiné je crois les deux premiers, autant après c'était d'autres personnes, et puis là il termine mais pas vraiment, il est juste sur quelques pages. Et
c'était Coipel et Camuncoli hein, sur tout du long quoi, mais
Sur le premier je crois que c'était uniquement Coipel.
Coipel avait fait les deux premiers en entier je crois.
Ouais, c'est ça. Bah voilà. Mais toujours est-il que ensuite, Olivier Coipel était épaulé par Camuncoli, mais ils n'ont pas précisé de toute façon les pages dessinées par Coipel et les pages dessinées par Camuncoli. Donc démerdez-vous avec ça. Bien souvent on reconnaît quand même le style de l'un et de l'autre, mais je trouve ça un peu dommage de même pas nous dire quelles pages sont d'Olivier Coipel. Et puis alors le scénario de Dan Slott, j'ai envie de dire, il y en a pas tellement, quoi. C'est un petit peu le problème. Je démarrais super optimiste sur cet event, je me disais, il va se passer un truc intéressant. Les deux premiers épisodes étaient bien. Et puis, alors après, j'avais l'impression que ça ne finirait jamais. C'était une ribambelle de versions de Spider-Man qui vont d'un univers à un autre. Et puis, ce n'est que ça. Et là, ce dernier épisode, c'est, voilà, on s'y perd. Il y a 36 000 versions qui parlent en même temps. Ils affrontent donc cette espèce de famille de Morlun, c'est pareil, on les reconnaît très mal, hein. Je veux dire, les Inheritors, là, qui est qui, je saurais même pas le dire, au fait, au final, après avoir terminé cet arc. Il y en avait un qui avait l'air plus vieux que les autres, mais alors, pour reconnaître les autres membres de la famille, faut vraiment se lever tôt ou être très observateur. Et puis, surtout, Slott avait posé quand même pas mal de questions, puisque il complexifier un petit peu cette mythologie en parlant du Sion ou du Sion, je sais pas comment on le prononce, The Bride and je sais plus ce que c'était le dernier truc, The Child je crois, non je sais plus, enfin bref, un truc comme ça. Il y avait trois trucs à mettre à récupérer pour faire une espèce de cérémonie, mais comme le résume très bien l'une des versions de Spider-Man au féminin, je sais plus si c'est Mayday ou si c'est quelqu'un d'autre, mais en gros tout ça c'est que du blabla quoi. C'est vraiment un blabla qui ne mène à rien. Il y a pas de, on part avec plus de questions qu'on a eu de réponses. Voilà, on sait pas trop ce que c'était tout ce bordel. En tout cas, Slott a l'air de s'être amusé avec toutes ces versions différentes de Spider-Man, mais moi, franchement, je me suis ennuyé et je me suis dit à chaque partie, là, sur les trois dernières, bon, allez, c'est bientôt la fin, on va avoir des réponses à un moment donné, et puis, le problème, c'est qu'on n'a pas eu de réponse. Voilà,
Mais j'ai remarqué que ça fait souvent vraiment... ça avec les events Slott, hein. Ça commence plutôt fort, et à chaque fois, tu es assez vite déçu, finalement.
En même temps, moi j'ai bien aimé la parenthèse Super Spider-Man. À part oui cette fin un peu rushée, mais bon bah rushée, y a pas de secret. Hein. À l'heure actuelle, c'est toujours l'actu ciné qui prend le pas sur les comics, donc voilà, il avait pas trop le choix. Un nouveau film arrivait, donc il fallait qu'il termine tout ça. Là finalement il y avait pas d'urgence, c'est au final, c'était plus un truc un peu fun avec plein de versions Spider-Man.
Il y avait Secret Wars comme urgence.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah là, il a encore un petit peu le temps, hein, avant Secret Wars. Mais bon, voilà.
Bah, s'il veut terminer certains de ses plots en cours, non, il a pas vraiment le temps.
Mais en tout cas, bon, bah voilà, c'est... Au final,
ça,
c'est...
Ça t'avait fait ça sur Ends of the Earth, ça t'avait fait ça sur... on va dire le premier et le deuxième numéro paraissent ambitieux et puis finalement ça s'écroule quoi.
Bah, End of the Earth, moi dès le début ça m'avait un peu saoulé. Spider Island effectivement au début je me suis dit ouais pourquoi pas et puis bon très vite. Mais là j'étais plus enjoué quand même. J'étais plus enjoué parce que y avait vraiment matière à raconter quelque chose d'intéressant et puis finalement voilà on n'a pas de réponse quoi. C'est encore une fois une espèce de grosse baston, un petit peu comme Spider Island avec plein de personnages partout et bon voilà. Par exemple, si on me demandait de relire ça, non quoi, c'est vraiment très très laborieux, voilà, ça n'en finit pas quoi. Honnêtement, je suis content même que ce soit terminé et qu'on passe à autre chose. Je sais même pas ce qui vient ensuite réellement dans le titre, puisque
numéro 15.
On va arriver à ça. Oui, mais je sais pas ce qui se passe.
Si tu cherches un truc, tu me demandes.
Ouais. Mais enfin voilà. Donc vraiment très très déçu et je vais être honnête. Hein, pour moi, c'est pas intéressant. Enfin voilà, je me suis vraiment fait chier quoi. Donc si je suis tout seul à l'avoir lu.
Oui, c'est ton avis à toi. Hein.
Ouais. Un pass pour moi cette fin. Franchement, voilà.
On continue avec la série que tu trouves bizarre mais que tu continues à lire,
bah oui.
Bruno. Il s'agit de Bucky numéro 5.
Bah oui, Bucky Barnes, The Winter Soldier. Qui est écrit par Alex Scott et avec au dessin on a Marco Rudi et Langdon Foss qui se partagent le travail. Avec toujours les pages de Marco Rudi que je trouve sublimes avec vraiment une mise en page toujours très très originale. Beaucoup d'inventions dans la narration. C'est très stylisé, c'est limite chaque page est un tableau qu'on pourrait accrocher. Une histoire complètement barrée avec un Bucky maintenant qui a remplacé justement Nick Fury comme étant The Man on the Wall, celui qui protège la Terre des menaces extraterrestres. Et donc là, il est censé s'entretenir avec la reine Ventoline de la planète Mer Z-Bow. Par rapport à justement une de ses futures menaces. Il fait équipe avec Daisy Johnson et alors que Bucky est en train de tomber sous le charme de cette reine de l'espace
avec Sky donc tu veux dire
oui tout à fait Sky en tout cas dans Agent of S.H.I.E.L.D.
Je comprends pas c'est dans Agent of S.H.I.E.L.D. mais par contre ils ont pas encore lié ça dans le comics même s'il y a la série Agent of S.H.I.E.L.D.
Bah en fait non mais là tu mélanges tout mais c'est qu'en fait ils ont dans le Marvel Cinematic Universe la Sky qu'on a vue dans Agent of S.H.I.E.L.D. est effectivement, se révèle être Daisy Johnson, une inhumaine qui vous cède des pouvoirs un peu comme celle qu'on a dans les comics. Mais celle dans les comics, elle reste toujours celle qu'elle a été depuis le début, à savoir une...
Et ce n'est pas une inhumaine.
Ce n'est pas une inhumaine, elle travaillait pour Nick Fury depuis très longtemps, et voilà.
Ouais, bon.
Donc c'est plus la série qui a essayé de faire un clin d'œil aux comics que l'inverse.
Non, mais je te rappelle que Secret Wars, dans quelques mois, ça va être Redcon tout ça.
Peut-être.
Ça reste la sœur de Maria Hill, puisque concrètement dans les comics, t'as l'impression que c'est Maria Hill.
Elles se ressemblent beaucoup, mais elles se détestent, donc.
Alors ça c'est simple, hein. Et puis des sœurs qui se détestent, il y en a.
Donc, une histoire un peu farfelue dans laquelle on a un Bucky du futur qui vient du multivers, qui vient pour empêcher la mort de ce Bucky.
La mort
de Bucky qu'il a vu dans sa machine à découvrir le multivers. Et. Et en fait, on a Bucky aussi qui se retrouve en mauvaise posture, puisqu'on a un Crossbone qui vient d'on ne sait où sur cette planète hyper éloignée de la Terre, qui vient de poignarder cette pauvre Daisy Johnson et qui commence à attaquer Bucky. Ça part dans tous les sens, c'est toujours très mystérieux, mais j'ai clairement envie d'avoir le fin mot de cette histoire. Donc j'irai voir la suite avec plaisir, sachant que l'arc n'est toujours pas fini, ce premier arc. Donc a priori ça devrait se conclure dans le prochain numéro. Et j'avoue être toujours aussi intéressé quand même par ce titre qui est vraiment vraiment hors norme par rapport aux autres titres Marvel. Donc pour moi c'est un petit bail quand même ce Winter Soldier.
Bah, quand même il y a une question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse. Qui fait de l'asthme ?
De l'asthme ?
Bah, je sais pas, Princesse Ventoline. Quoi.
Ah oui, bah... oui, alors là, c'est vrai que le nom de la princesse est un peu étonnant. Mais oui, c'est peut-être que Bucky a de l'asthme, mais c'est pour ça qu'il tombe amoureux d'elle. Je sais pas.
À moins que ce soit Bendis qui fasse de l'asthme, puisque c'est notre dernier review de la semaine. Il s'agit de All New X-Men 36. Vous avez vu ? Transition.
Belle transition.
Appelez-moi Transition Man.
Mais ça veut rien dire.
Non, mais est-il essoufflé, Benny ? C'est la question qu'on se pose.
Ah, d'accord, ouais, d'accord, ok. Donc, Brian Michael Bendis, effectivement, au scénario de ce All New X-Men 36 avec Mahmoud Asrar au dessin. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire puisque je croyais qu'il y avait même Stuart Timonen au fait sur le titre, tellement il arrive à copier son style. Là, c'est bluffant. Là, je me rends compte qu'au fait, je pensais avoir vu du Stuart Timonen et non, c'était Mahmoud Asrar, bah comme quoi. Donc, graphiquement déjà, surtout les premières pages, il y a une page somptueuse avec Fatalis qui a vaincu tout le monde. Tout le monde est par terre et Fatalis est triomphant. Et cette page est vraiment vraiment extraordinaire. Alors on est dans ce scénario, rappelez-vous, enfin dans cet arc plutôt où les All New X-Men ont été transportés malgré eux dans l'univers des Ultimate X-Men. Et là ils font tous face à Fatalis, hein, ils se sont liés face à Fatalis. Ils arrivent à vaincre Fatalis et puis après dans une deuxième partie de ce comics, ils retrouvent cette enfant, cette jeune mutante hein, qui viennent de découvrir par qui tout est arrivé, qui les a un petit peu transportés dans différentes dimensions puisque elle a ce pouvoir de transporter les gens à travers différents univers, différentes dimensions. Voilà, c'est une toute jeune mutante qui sait pas encore contrôler ses pouvoirs et qui sait pas encore comment aborder tout ça quoi. Et ce qui est surtout intéressant, c'est ce qui arrive à la fin puisque The Beast est quand même assez choqué du monde qu'il a découvert, hein, l'univers Ultimate est pas tout rose, surtout avec les mutants. Et à la fin, il décide de prendre une décision. Voilà, il dit qu'il va falloir ramener
les X-Men du passé de l'univers des Ultimates.
Ah, on ne sait pas quelle va être cette décision, mais le ton est grave. Et voilà. Et donc on verra bien de quoi il parle. C'était encore une fois un épisode assez fun et décomplexé. Hein, il y a pas de ça se lit relativement vite. Mais voilà, j'ai honnêtement préféré lire ça, disons que le Amazing Spider-Man par exemple, qui était beaucoup plus laborieux comme lecture. Donc voilà, bon, il y a toujours un petit peu de touche d'humour aussi par-ci par-là, hein, c'est du Bendis, donc bon, voilà, c'est non, bon, moi j'ai plutôt bien aimé cet arc, même si effectivement ça fait pas vraiment avancer le Schmilblick, hein, je suis d'accord sur l'ensemble de la série, bon. Voilà, c'était une parenthèse, quoi, on va dire, cet arc, puisqu'ils sont revenus chez eux. Et retour au point de départ, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, reste à voir ce que va être cette décision de Beast. Et puis de toute façon, la série va bientôt...
Total Wild Guess. C'est lui qui va permettre de fusionner les réalités de Secret Wars, Univers Ultimate et la Terre 616. C'est lui qui va être en train de mettre au point cette technologie et ça va...
Battleworld.
Ouais, voilà. Battle World.
Je sais pas parce qu'on n'avait pas vu qu'une espèce d'entité, un gars derrière tout ça, un peu à la Beyonder, non ? Sur les previews. Enfin, je sais plus.
C'est lui qui va trouver la machine pour fusionner les deux réalités sans qu'il y ait besoin d'en exterminer une ou l'autre.
Mais est-ce que c'est Bendis tout simplement,
hein, j'en sais rien.
Ouais, mais est-ce que c'est vraiment Bendis qui est derrière tout ça, ce Secret Wars ? Je ne sais même plus
non,
qui est derrière.
Non, mais Bendis va quand même écrire la fin de l'univers Ultimate. Le tie-in Secret Wars Ultimate End, c'est lui qui l'écrit quand même.
Je sais pas, mais je pense que c'est plus à voir du côté d'Hickman ce qui va se passer vraiment avec
Secret Wars.
Bah, avec Secret Wars. Mais il y a un moment assez marrant quand ils reviennent dans notre monde, par exemple, Jean Grey, check la tête de quelqu'un pour voir si c'est bien leur univers. Et elle check en fait l'esprit de Tony Stark et donc c'est assez drôle quoi parce qu'elle est un peu choquée par ce qu'elle voit. Et on sait tous que Tony Stark actuellement, il est plus, c'est plus le Tony Stark de d'habitude quoi.
Tiens, Bendis a joué le jeu de la continuité.
Bah, il semblerait, voilà. Donc c'est plutôt un clin d'œil marrant. Puis voilà, bon, enfin bon. Bon, globalement, moi c'est un épisode que j'ai pas détesté, ça se lit bien. Contrairement à ce que peut dire Sam dans sa
dans sa chronique, par exemple, cette semaine, hein, puisqu'il dit que c'est une grosse blague, mais rappelons que Sam, en fait, parle des épisodes avant de les lire, ce qui est un concept en soi. Oh, le mec, il balance. Voilà.
pas d'amour dans cet épisode.
Pas d'amour pour Sam, mais de l'amour. Si, un petit bisou de Jean Grey, de notre univers, hein, à Miles Morales, qui ça ne le laisse pas indifférent. Il bande. Voilà.
Parce que finalement, Marvel n'a pas vraiment rendu hommage à la semaine de l'amour. Le seul qui a parlé d'amour dans sa review.
À mon avis, ils ont pas calculé, à mon avis, ça comme ça. Hein. Je pense pas que Bendis avait calculé le fait que ça sortait. La semaine de la Saint-Valentin, cet épisode.
Non, mais le seul qui a parlé d'amour dans sa review, c'est Bruno, avec oui. Bucky Barnes.
Et oui, et Ventoline.
Et Ventoline, voilà. Quand tu es soufflé, un petit coup, et ça repart.
Exactement.
Passons au TP de la semaine, voir si de l'amour il y a. Peu de chance, avec le premier TP de la semaine, il s'agit de Deathlok Rage Against the Machine. Si avec ce titre, vous ne sentez pas qu'on est dans les années 90, eh bien, je vous le confirme. C'est au prix de $35 avec les apparitions des années 90 de Deathlok. Notamment, ses apparitions dans la série Cable numéro 59 à 62, ainsi que le Uncanny X-Men 371, le X-Men 91, le X-Men Annual 99, et puis la série régulière qu'il avait eue en 99, écrite par Joe Casey, avec les dessins de Leonardo Manco, et qui s'est arrêtée au bout de 11 épisodes. Voilà. Donc ouais, pas d'amour, hein, c'est pas d'amour.
Non,
c'est,
mais
c'est
non,
violence,
bah, pas d'amour pour cette série que je n'ai pas lue et que qui m'intéressait pas énormément à cette époque.
Pas d'amour, c'est la violence, comme le film qui sort pour la Saint-Valentin. Voilà, je n'en dirai pas plus. Vous avez compris de quoi je parle. Non, pas du tout. Fifty Shades of Grey.
On n'a pas envie de.
Oh les mecs, quoi.
Purge.
Oh les mecs. On passe à du vieux Marvel Masterworks Submariner, le sixième hardcover, prix de $75 avec les épisodes 39 à 49 de la série Submariner qui avait commencé en 1968, ainsi que le Daredevil 77. C'est du Jerry Conway notamment, on a aussi du Gil Kane au dessin, du Gene Colan. On voit Namor croiser des gens comme Docteur Doom ou comme MODOK notamment. Voilà.
MODOK que l'on va retrouver prochainement. Dans Secret Wars. Mais
et puis pour ceux qui ne trouvent plus, le reprint du Masterworks Mighty Thor volume 1 avec les Journey into Mystery 83 à 100 au prix de $50. Voilà, c'est tout pour Marvel cette semaine en TP.
C'était Matt Fraction, hein.
oui,
Matt Fraction et Kieron Gillen peut-être.
C'est ça.
Voilà.
Expert comics.
Mais oui. Mais non, mais c'est ça, non ou pas?
Non, Marvel Masterworks.
Ah oui,
la création de Thor. Hein,
non, mais moi je pensais que c'était les récents, trop. Excuse-moi, j'ai pas entendu le Masterworks.
Moi qui pensais que le mec faisait une vanne. Non, même
non.
Pas.
Non Fraction et Kieron Gillen, moi je pensais que c'était les nouvelles séries, enfin les séries récentes.
Journey to Mystery 83 à 100, non, pas trop.
Non, ouais, effectivement. effectivement. Ouais, c'était la première passion. Mais tu disais pas d'amour avec Fifty Shades of Grey, puisque c'est un film de merde, je vais même spoiler la fin. De l'amour, il y en a, puisque ça se termine par un mariage, voilà.
T'es une ordure.
À la fin, il se marie. Voilà.
Je rappelle que c'est une trilogie qu'on a que le premier.
À la fin du premier, il se marie.
Putain, la pute quoi qui balance. Putain, franchement, si les auditeurs sont pas contents, c'est toi qui prends.
Ah, je m'en fous complètement. Là. Je prends tout dans la gueule.
Oh non, Benny, non, j'ai des images.
Oh mon Dieu, non. Moi aussi, j'ai des images et c'est pas forcément désagréable. J'ai des images plein les yeux.
Oui, après ce joli facial. Qu'est-ce qu'on est? Eh bien, nous sommes complètement vides. Et c'est Bruno qui a nous parlé de ça. The Empty numéro 1.
Empty, un peu, c'est...
Transition Man.
Empty, c'est l'inverse du trou du cul de Bunny. Voilà. Donc,
Oh putain, et c'est la Saint-Valentin, on est glauque. Hein. On est glauque. Hein.
Là, tu vois, Steve,
j'ai fait une tentative de blague pourrie. Et...
Steve, il était poète, et puis là, toi, tu t'arrives avec tes grands sabots, et voilà.
Il est poète, Bruno, c'est un poète.
Alors, c'est écrit, dessiné, lettré et colorisé par Jimmy Robinson. Donc c'est le nouveau bébé de Jimmy Robinson chez Image, sous la bannière Shadowline. Donc ça va nous raconter l'histoire d'un monde sur lequel on retrouve le personnage principal qui s'appelle Tanor, qui est une femme guerrière, chasseuse, qui,
c'est la maman de Thanos, hein, évidemment.
Voilà, Thanor, qui chasse et qui essaye d'apporter de la nourriture à son village, puisqu'elle vit dans un monde assez dévasté où en fait toutes les cultures sont empoisonnées, toutes les bêtes sauvages sont empoisonnées. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus manger, ne peuvent plus boire, parce qu'il y a des racines qui sont un peu éparpillées dans leur monde, qui propagent du gaz et du poison, et donc la vie est complètement impossible dans cet univers. Donc ils essayent ils tentent de survivre malgré tout. Et elle est plutôt d'avis qu'il faut partir explorer pour découvrir de nouveaux horizons et un autre endroit où vivre, alors que les anciens du village, eux, pensent qu'il faut essayer de trouver une façon de s'adapter, de résoudre le problème. Donc voilà, il y a une petite lutte à ce niveau-là entre ces deux types de personnages. Et l'héroïne va tomber nez à nez avec une sorte de cadavre. En fait, elle pense que c'est un cadavre qui flotte dans le fleuve à côté de son village. Et finalement, il se trouve que c'est une jeune femme, une jeune femme alien avec un design assez étonnant, avec des yeux qui sont vraiment sur le côté du visage. Enfin, je sais pas comment décrire, mais c'est un peu étonnant comme design, ça fait un peu peur, ça fait très
alien. Elle a une gueule de Merlan Free.
Elle a un peu une gueule de Merlan Free. Mais cette jeune femme, en fait, venait de subir une tentative d'assassinat par les gens de son peuple. On sait pas trop pourquoi. Et en fait, elle va se révéler capable d'avoir des pouvoirs et d'enlever, en fait, le poison et de redonner la vie aux espèces vivantes proches de ce village. Donc ça va devenir un peu un nouvel espoir pour ce peuple. Et voilà, donc ils vont partir en quête pour essayer d'éliminer ce mal, ces racines qui empoisonnent tout dans ce monde. Et tout va bien sûr partir un peu en cacahuète à cause des dissensions justement entre les anciens et l'héroïne. C'est très prenant, c'est très intéressant. Graphiquement, c'est très bizarre, ça va pas plaire à tout le monde. En plus, il y a quelque chose d'assez étonnant.
On a bien rigolé sur les premières pages, hein, quand même, avant l'émission. Bon, on va être honnête.
Ouais, les dessins.
Avec Benny, on a rigolé. On a ouvert, on a dit, ouais, pas maintenant. Quoi.
Et non, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai hésité entre lire ça et autre chose. Et j'ai feuilleté ce truc-là et je me suis dit, oh mon dieu, c'est quoi ces gueules ?
Il y a des choix assez bizarres.
C'est cauchemardesque. C'est cauchemardesque.
Il y a des choix assez bizarres dans les designs. L'héroïne, par exemple, ses costumes, c'est une sorte de. Elle a des bandelettes tout autour de son corps nu avec des cicatrices et elle a des sortes d'énormes lames épais qui sont accrochées à ses bras.
Épaisses, Bruno, épaisses. Hein, d'énormes lames épaisses.
Des lames épaisses, voilà, c'est ça.
Non. Oui, bon, d'accord. Tentative de vanne totalement avortée, voilà, merci.
J'ai rien compris à ce qui vient de se passer, c'est pas grave. Mais par contre, je pensais au design, effectivement, de ces personnages à long cou, parce qu'ils ont aussi
des longs coups.
Super longs, et puis des gros yeux. Franchement, ça me faisait peur, et ça me faisait penser au design de, par exemple, des, je sais pas si vous vous rappelez de ce dessin animé là, les mondes engloutis, là, ils avaient quand même des sales gueules.
c'est vrai. Mais
ça me faisait penser un peu à ça.
Il y a un esprit un peu, ça fait penser des trucs un peu bizarres avec des peuples un peu étranges. Ouais. Mais en tout cas, j'ai trouvé le numéro très plaisant. À noter qu'il y a quelque chose peut-être qui va surprendre, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation de phylactère classique, de bulles bien définies. On a juste un petit trait avec qui indique qui parle.
J'ai pensé à certains spawns, hein, pas à l'époque, certaines séries dérivées de spawns qui étaient faites comme ça, hein, pour les vieux lecteurs.
Mais par contre, la gestion, par exemple, du fait que les peuples parlent des langues différentes est très bien gérée, j'ai trouvé. Et puis on a envie d'en savoir plus, donc pour moi c'est quand même une bonne surprise. Et j'y allais vraiment à reculons à cause du design, et au final c'est une bonne lecture assez originale. Donc pour moi c'est un petit bail.
D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, hein, le fait que tu parles de différentes langues. J'en avais pas parlé tout à l'heure. Une petite scène qui m'avait un petit peu étonné dans le Star Wars, le Darth Vader, pardon. Jabba parlant Jabba, enfin en Hutt, je ne sais pas quelle est la langue, voilà. Et Darth Vader lui répond en anglais. Regardez bien, ça m'a un peu fait. Enfin, je sais pas, je trouvais ça bizarre. Aucune explication.
Mais c'est toujours comme ça, hein, dans Star Wars à chaque fois. Enfin, je veux dire, ils sont ils ont toujours parlé avec Jabba en parlant en anglais. Après, il y avait souvent un traducteur effectivement qui était là. Mais
non, mais pas là.
J'ai pas fait gaffe si le traducteur était là, si le Twi'lek habituel était là, mais je regarde.
Suis les mondes engloutis.
Non, mais c'est, du coup, c'est, quand tu as parlé de ça, ça m'y a fait repenser. Voilà. On continue avec une sortie de la semaine chez Valiant, mini-série en 4 écrite par Matt Kint et dessinée par Trevor Hersine, c'est Divinity. Divinity. Hersine ou Hersine d'ailleurs, je ne sais pas comment on le prononce.
Hersine wins.
Hersine.
Le preview que j'avais lu il y a de ça une ou deux semaines m'avait donné franchement envie d'aller lire ce comic. Qu'est-ce que j'en ai pensé au final ? Eh bien... Je sais pas trop. Ça commence plutôt pas mal. On suit un enfant qui a été abandonné juste après la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, l'hiver 1945. On est en Russie. Et donc, il a été abandonné devant la porte, soit d'un orphelinat, soit on ne sait pas trop. En tout cas, ça veut devenir un enfant de l'État. Et il va s'intéresser énormément aux sciences, être un très bon élève, et va être recruté dans un programme russe assez secret, qui va l'envoyer dans l'espace au bout de la galaxie pour faire mieux que les Américains. Les Américains vont sur la Lune, et bien eux, ils ont décidé d'aller plus loin, au bout du système solaire ou de la galaxie, je ne sais plus. Au bout de la galaxie, et ça va prendre 30 ans. Donc il cherche un enfant qui n'a pas de famille, hein. Ses parents adoptifs sont morts. Donc du coup, il est complètement récupéré par l'État. Et parce que ce voyage va durer 30 ans. Et donc il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui l'attende. Or, eh bien, ce jeune homme a un secret. Un secret. Il a une amoureuse cachée, évidemment.
Il est black, c'est ça son secret.
Ah oui, moi ça n'a absolument aucun intérêt pour
non,
moi.
Non, mais
c'est vrai que
qu'un black n'a absolument aucun intérêt pour toi, mais non, c'est pas du tout ce que tu dis. Non.
Comment tu déformes mes propos. Et puis d'un seul coup, j'ai plus rien compris. On va suivre un mec dans le présent, un mec en train de faire de la grimpette en Australie, et il se pète la gueule, et il s'éclate la tête sur un rocher, et c'est là que la narration se barre en cacahuète.
Ouais, j'ai pas tout saisi non plus, je t'avoue. Alors, en fait, j'ai pas compris si ce mec-là... Au fait, à la base, comme toi, tu sais, je pensais que c'était un gars en Australie de nos jours, qui fait de l'escalade.
C'est de nos jours, ça.
Dont le destin est lié avec... En fait, j'ai cru tout simplement que le gars revenait de l'espace à ce moment-là et le sauve.
Moi aussi.
Voilà, bon, c'est à peu près ce que j'ai compris. Jusque-là, voilà. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des trucs très bizarres. Et je me suis dit, peut-être que finalement, est-ce qu'il n'arrive pas dans un monde qui ressemble au nôtre, où il y a ce fameux David qui fait de l'escalade.
Ce qui est compréhensible, c'est que le mec est revenu sur Terre et a acquis des pouvoirs par la même occasion.
Ouais.
Pouvoir assez important. Ouais. C'est juste que la narration est totalement éclatée et du coup, ça devient brouillon pour quelque chose qui devrait être simple. Faire brouillon et faire Matt Kint pour quelque chose qui devrait être simple.
Parce que ces dernières pages, c'est quand même assez fucked up. Le coup de c'est génial, il y a plein de couleurs, c'est beau, le gars qui se décompose en mosaïque.
Je suis dans le désert. Ah bah en fait, non, je suis dans une oasis.
Et oui, et puis il y a quelqu'un qui quand même se transforme en une espèce d'oiseau. Dégueulasse.
C'est les pouvoirs du mec. Mais en fait, si tu veux, ça devrait être simple. C'est ça qui est terrible, c'est que ça devrait être simple, mais il fait volontairement compliqué. C'est le problème que c'est vraiment ce que je n'aime pas chez Matt Kint. Il fait volontairement compliqué. Pour faire un côté indé, je fais compliqué, etc. Mais ça n'a pas d'intérêt de faire compliqué. Ça devrait être simple. On a compris. Et pourquoi tu cherches à rendre plus complexe quelque chose qui est simple ? C'est moi, ça me dérange.
Mais moi, justement, au début, je me suis demandé, arrivé à la fin, est-ce que j'avais bien tout compris ? Alors après, je suis revenu quelques pages en arrière et tout. Donc effectivement, on a compris la même chose. Globalement, moi, j'ai quand même été séduit par la première partie de l'histoire, par l'histoire de ce programme, de ce cosmonaute. Je sais pas si on peut dire cosmonaute, c'est un cosmonaute.
Je sais plus, les Russes, comment ça s'appelle ?
Je sais plus ce que c'est.
Ouais. Ce bioman, non, ça c'est les japonais. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Mais
c'est bien
que...
cosmonaute, c'est bien ça.
Oui. Moi ça m'a vraiment emporté cette histoire. Puis surtout, justement, on parlait de la Saint-Valentin, ces adieux déchirants avec quand même sa copine. voilà, il lui annonce qu'il va partir 30 ans dans l'espace et que quand il va revenir, enfin s'il revient, elle aura une cinquantaine d'années, donc autant dire que bon, elle sera peut-être plus là non plus, hein, on sait jamais. Donc c'est quand même assez tragique. Donc j'ai vraiment bien apprécié au fait les trois quarts finalement de cette lecture, et puis il y a cette fin qui m'a laissé un peu perplexe. Néanmoins, j'ai quand même envie d'aller voir la suite.
Oui, j'irai voir la suite en espérant que ça reprenne le chemin du début et non pas le chemin de la fin, quoi.
Je sais plus si tu l'as dit, c'est en 4, hein, je crois, non?
C'est en 4, oui, c'est une mini en 4.
Voilà. Bon, et puis c'est du Valiant, rappelons-le, et ma foi, ça faisait longtemps que j'avais pas commencé une série chez Valiant, même si c'est une mini. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal, hein, quand même. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, même
oui,
si...
C'est intéressant, et puis ça ce n'est, en tout cas, à première vue, ce n'est absolument pas lié à l'univers Valiant classique.
Ouais,
c'est-à-dire que vous pouvez lire ça sans connaître Exo Manowar, sans connaître Harbinger, sans connaître Bloodshot. Voilà, c'est une mini, point.
Bien alors, c'est une origin story, mais d'un personnage qui va peut-être être intégré à l'univers Valiant.
Je crois que ça avait été annoncé comme étant quelque chose d'assez déconnecté, voilà, juste une histoire comme ça.
Bah déconnecté, oui, ça l'est vraiment. Mais bon, en tout cas, voilà, on passe aux notes.
Malgré cette petite déception, pour moi, ce sera un bon petit bail quand même, c'est vraiment pas mal, quoi. Le début est pas mal, donc un petit bail, pas un gros bail, petit bail.
Moins un bail aussi quand même, j'ai pas trouvé ça désagréable, cette lecture.
Allez, on passe à l'amour pur. L'amour le plus sauvage, le plus improbable, dans une scène totalement choc. C'est Walking Dead 137, Benny.
Oui, alors par Robert Kirkman, Charlie Adlard, vous connaissez la chanson. Et puis c'est encore...
Ah non, c'est pas ça.
Et puis j'ai oublié quelqu'un, et vous allez me le dire, à force.
Et oui, c'est l'encreur.
Godiano.
Et voilà, Stefano Godiano, exactement. Au fait, tu sais, j'essayais de faire genre, ouais, est-ce que vous savez, et tout, parce que j'avais plus la page. Et j'ai oublié le nom.
J'apprécie ton honnêteté.
Voilà. Quand même, il se passe des choses intéressantes, hein, mine de rien, dans Walking Dead, contrairement à ce que certaines mauvaises langues peuvent dire. Il y a eu du rififi chez le club des survivants. Je sais plus comment ça s'appelle, cet endroit où justement Rick n'est pas, hein, Rick n'est pas là. C'est Carl, le Hilltop, je crois qu'ils se sont tous. Je sais même plus où ils sont. Bref, qu'importe, c'est pas grave. Il y a eu la révolte, un vent de révolte, puisque Carl a un peu pété les plombs pour défendre Sophia, hein, je crois qu'elle s'appelle Sophia. Du coup, il a assommé à coups de pelle deux jeunes hommes. Ces deux agresseurs et les parents de ces deux jeunes hommes sont furieux envers Maggie qui dirige un petit peu tout ce groupe de survivants. Et du coup, il y a une espèce de complot qui s'engage contre Maggie. Ces parents, les parents de ces jeunes ne sont pas contents et organisent une espèce de coup d'état, si on peut dire, contre Maggie. Donc ça commence à prendre forme dans cet épisode et on se demande vraiment s'ils vont pas réussir à l'évincer, donc il y a quand même un gros suspense là-dessus. Et puis de son côté, donc il y a Carl qui côtoie cette fille étrange qu'ils ont trouvé récemment, cette fille étrange qui faisait partie de ces gens qu'on va appeler les, je sais pas comment ils vont les appeler en français, quoi, c'est qui murmure, quoi, je sais pas comment ils vont les appeler, les murmureurs, ça fait très con. Donc je ne sais pas comment ils vont le dire, voilà, j'en sais rien.
Les chuchoteurs, tout simplement.
Les chuchoteurs, peut-être. Justement, Carl est allé chuchoter avec cette jeune fille qui était enfermée dans une cellule à la base. Et au fait, il explique à tout le monde que il a un bon feeling, un bon contact avec elle, et que donc il va pouvoir peut-être lui soutirer des informations sur son groupe le groupe avec lequel elle était, quoi. Et donc il y a une espèce de relation un petit peu bizarre qui commence à prendre forme entre Carl et cette jeune fille qui s'appelle Lydia, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé. Et ma foi c'est une relation assez oui effectivement 50 Shades of Grey à côté, c'est du pipi de chat, hein, je pense, puisque moi je l'ai lu, mais vous avez vu cette image voilà qui restera gravée dans vos mémoires pendant
ça,
quelques jours.
Ça restera gravé, hein.
Voilà, une petite léchouille particulière, voilà.
La question, c'est est-ce que nos draps vont s'en souvenir cette nuit, quoi.
Ouais,
et de quelle manière.
Ouais. Moi, personnellement, je n'achèterais pas forcément cette planche pour l'encadrer et me pignoler devant. Il y a quand même mieux, quoi. C'est pas terrible.
Ça correspond à la photo que je vous ai envoyée sur Skype hein, tout à l'heure.
Oui, c'est ça, exactement.
Bonne grosse.
Non, mais enfin voilà, c'est difficile à comprendre pour les auditeurs qui n'auront pas lu cet épisode, mais la relation entre Carl et Lydia est pour le moins particulière. Et c'est très intrigant ma foi, hein. C'est très très intrigant justement. Moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il est manipulé, est-ce qu'au contraire il sait ce qu'il fait. Moi je ferais pas du tout confiance à cette jeune fille. Hein. Je pense qu'elle le mène par le bout du nez et même par le bout de la cornée, si je puis dire.
Voilà.
Mais très très bon épisode hein. Franchement il y a une espèce de tension aussi bien sexuelle
elle était
que
dans ton slip la tension ouais.
Voilà, non oh mon dieu, quelle horreur. Mais en tout cas entre ces deux personnages il y a une tension sexuelle et puis il y a quand même une grosse tension avec ce qui se passe aussi à côté, donc c'est vraiment très bien. Moi j'ai beaucoup aimé les derniers épisodes, mais il y a une espèce de montée en puissance bien malsaine, et j'ai hâte de voir la suite et de savoir où ça va tout ça. Donc, très bon épisode de Walking Dead cette semaine, un bon cru pour cette Saint-Valentin. donc voilà, un bon bail.
On continue avec du Dark Horse, j'ai été lire Itty-Bitty Mask, Itty-Bitty Comics numéro 4, quatrième partie d'un arc sur Mask. C'est à part Art Balthazar et Franco, c'est du comic pour enfants. Hein. Clairement, on n'avait pas cherché un truc hyper recherché, hyper tordu, hyper profond. C'est Mask qui joue au super-héros contre l'envahisseur alien, les aliens voulant annihiler la Terre, puisque le Mask a mangé une partie de la Lune. Voilà.
D'accord.
C'est tout. Rien, c'est pas compliqué.
Et alors, c'était bien.
Non, mais franchement, c'est con, mais c'est drôle, quoi. Moi, ça me fait marrer de lire un truc aussi, aussi simple et voilà, c'est pour enfants, c'est n'importe quoi. Et quelle est la solution que Mask va trouver pour remettre la Lune en état ? Eh bien, repenser à de quoi est faite la Lune, hein, selon les Américains. En tout cas, selon les enfants américains, souvent. C'est une légende urbaine que l'on connaît, et bien voilà. Et puis bon, d'autres petites aventures, hein, puisque le masque va passer de personne en personne, et notamment jusqu'à un être immonde à plein de pattes, si on peut dire ça comme ça. C'est du comic pour enfants, c'est juste à lire avec ses enfants, et c'est ça qui est cool. Ça reste. Pour moi, c'est du bon cru. Maintenant, faut vraiment pas chercher le comic hyper. Voilà, on n'est pas dans Divinity, on n'est pas dans. On n'est pas dans Walking Dead, on n'est pas dans Empty, c'est du comic simple, mais ça fait du bien aussi.
Tu l'as lu à tes enfants donc ?
Oui, mmh. C'est ça. Des enfants des voisins que j'ai kidnappés.
Demi-heure pour aller lire.
Hein. Ouais, moi je suis un kidnappeur sympa, je kidnappe les enfants, je leur lis des comics et après je leur dis bah, cassez-vous maintenant.
Ouais.
Attends, j'étais sympa, je les ai laissés rentrer à pied, mais c'est les voisins. Ça, ils n'ont pas eu beaucoup à marcher quoi.
Tu les as laissés rentrer entiers aussi, il faut dire. Parce que c'est pas souvent le cas. Hein. D'habitude, tu leur coupes quand même quelques membres avant de les laisser partir.
Bah, ma collection va pas s'agrandir toute seule, non ?
Ouais.
Je vais avoir des problèmes à force, moi.
Je vais avoir des problèmes.
Bah et moi donc hein.
Bref, moi j'ai bien aimé cette lecture. Maintenant, est-ce que je la conseillerais comme un bail absolu ? Ah non, vraiment pas. Enfin voilà, si vous avez des enfants, vous avez envie de leur faire découvrir ce que peut être un comic sympathique, leur faire découvrir le personnage du masque et le côté complètement déjanté, très cartoonesque du personnage. Oui, avec une solution à un problème bizarre, genre on a mangé la lune, comment on la répare ? Bah voilà. Et puis, si vous voulez leur apprendre l'anglais aussi, finalement, parce que ça reste un langage anglais assez, assez simple, ça peut être une bonne initiation pour les enfants qui commencent à parler un peu anglais. Maintenant, allez, un check-it, quoi. Allez, vraiment. Enfin, c'est difficile à mettre une note pour ça, quoi.
Si vous voulez leur apprendre la vie, tout simplement.
Ouais, pourquoi pas. Après tout, c'est une belle leçon de vie que The Mask. N'est-ce pas un masque que l'on enfile tous les jours devant la société ? C'est profond, peut-être aussi profond que la prochaine review, Bruno, qui sera notre dernière de la partie 1D, Harvester numéro 1.
Peut-être aussi profond que même, dans ton...
Oui, Harvester numéro 1, écrit par Brandon Seifert et avec au dessin Eric Battle.
Chez qui ?
Donc c'est chez Legendary. Donc, un éditeur de comics que j'apprécie beaucoup, puisqu'il a, il a sorti pas mal de titres assez intéressants, comme Annihilator, Apocalypse, ou encore A Town Called Dragon. Et, et donc, ce premier numéro d'Harvester, j'ai voulu tester pour voir ce que ça donne. Graphiquement, on a un dessinateur qui a exactement le même style que Freddy Williams 2. Voilà, qu'on a pu voir sur pas mal de séries récemment. J'ai vraiment cru au départ que c'était lui qui dessinait, alors que non, c'est un autre artiste. C'est pas mal, mais c'est quand même parfois un peu brouillon. Voilà, je suis pas non plus hyper fan des dessins. Le pitch, on va s'intéresser à une légende urbaine. C'est la légende urbaine du Harvester, qui est en fait un personnage qui vient pour tuer les méchants et qui est un peu ce qu'on raconte aux enfants, voilà, s'il y a des méchants, il y aura une créature qui viendra avec son chapeau, qui viendra tuer tout le monde et qui après se disparaîtra et voilà. Donc ça c'est la légende urbaine et en fait on va s'intéresser dans ce comics à une thésarde qui est en train de faire justement une étude.
Ah ça t'a plu ça hein.
Oui, mais c'est pas du tout en biologie ni rien, c'est vraiment elle fait une étude sociologique sur les légendes urbaines et elle justement elle étudie ce phénomène.
Et elle il y a va beaucoup de films à qui ça n'a pas réussi ça.
Hein?
Il y a beaucoup de films pour les personnages, ça n'a pas réussi.
Oui, d'étudier les légendes urbaines. Oui.
Voilà.
Oui, non, c'est vrai. Je ne suis pas sûr qu'elle finisse le comics, mais ça attire l'attention d'un homme assez mystérieux qui se révèle être un détective privé et qui vient lui parler en fait de ce personnage, de cet Harvester qui est une légende, mais qui finalement, comme toutes les légendes, a peut-être une base dans la réalité. Et voilà, est-ce que le Harvester existe vraiment? Ça vous le découvrez en lisant le comics. C'est pas mal, mais franchement, ça sans plus quoi. C'est vraiment pas renversant. Donc je dirais un sujet assez moyen, graphiquement pas top et voilà, ça j'irai pas plus loin. Pour moi, c'est un limite impasse quoi. C'était vraiment pas emballant quand même comme lecture.
Eh bah dis donc, le mec qui commence sa vie en faisant un éditeur que j'aime beaucoup.
Ouais, bah voilà, ils peuvent pas tout ne peut pas être parfait hein, chez Legendary, mais voilà, peut-être par la suite ça va devenir plus passionnant, mais là pour l'instant c'était vraiment pas top top.
Ah ouais, c'est un pass, mais tu vas quand même aller voir le 2?
Non, j'irai pas voir le 2, mais ça se trouve on va lire des reviews comme quoi The Harvester c'est le nouveau titre à suivre dans le comics américain.
T'y crois?
Non, ce j'y que crois
tu
pas. Dis. Pas
franchement,
trop.
Tu crois ce que tu dis?
J'y crois pas trop.
Allez, on va passer au TP1D pour terminer cette partie et enfin enchaîner sur la dernière, la partie d'essai. Suicide Risk chez Boom est sorti TPB volume 4, prix de $15, toujours une série de Mike Carré avec des dessins d'Elena Casagrande. Ce sont les épisodes 14 à 17 de cette série que tu aimes toujours autant.
Oui, c'est une très très bonne série, vraiment avec un rythme.
Faudrait que je m'y remette. Enfin, je m'y remette, j'avais pas forcément accroché au premier épisode et du coup j'avais laissé tomber.
C'est très riche et puis voilà, on a un épisode par mois et ça, le rythme continue et voilà, c'est toujours aussi bien.
Pour la Saint-Valentin, vous offrirez bien un peu d'horreur à votre aimé avec la collection de Dark Horse, les Creepy Archives volume 21. C'est du hardcover, ça vaut $50 et ce sont les magazines 99 à 103 qui sont réprintés dans ce Creepy Archives. Vous retrouverez du Bruce Jones, du Len Wein, du Alfredo Alcala, du Roth Hells, du Richard Corbin, du Walter Simonson et encore plein d'autres dans ce 21e pardon, volume.
Ouais, puis vaut mieux lui offrir ça après tout que l'horreur que t'as dans ton pantalon.
Bah, ça dépend. Ça dépend.
Oh, mais tu t'en.
Il y en a qui aiment, t'as vu Walking Dead.
Mais tu t'en.
Quand t'as vu Walking Dead cette semaine, je crois que tout est permis. On passe à du Dynamite Doc Savage Omnibus volume 1 qui reprend des vieux épisodes de Doc Savage. Ça vaut $30. J'ai pas les numéros exacts. Ça reprend apparemment la. Non, pardon, c'est pas des vieux numéros. Ce sont des numéros assez récents. C'est la maxi-série de Chris Robertson qui est reprise dans ce tome. Les 8 épisodes de cette maxi-série. Ainsi que des annuals. L'annual 2014 notamment qui avait été écrit par Shannon Eric Denton. Voilà, c'est donc à 20 à $30 si vous aimez Doc Savage, vous avez envie de découvrir ce personnage. Toujours chez Dynamite, vous avez du Alors non, ça je le garde pour la fin, autant pour moi. Vous avez du Warlord of Mars, déjà Toris, le dernier TP de cette série, avant que la série se rappelle John Carter, puisqu'ils ont repris les droits. Ce sont les épisodes 25 à 30 de cette série. C'est au prix de $20. Chez Image, nous avons chez Image Starlight volume 1, le premier TP. Très très bonne série, fin de volume 1, mais en même temps, pour le moment, il n'y a qu'un volume de prévu. C'est du Mark Millar, c'est du Goran Parlov, des couvertures de John Cassaday, ça vaut $15. C'est vraiment pas cher pour cette très très bonne série en 6 parties que tu as adoré, Benny.
Tout à fait, effectivement. C'est vraiment l'un des meilleurs trucs qu'a fait Millar récemment, et c'est frais, c'est fun, voilà, on passe vraiment un excellent moment à la lecture de ces numéros.
Tout à fait d'accord.
Autre très bonne série, c'est une série de J. Michael Straczynski, fin de cette première saison et peut-être même fin de la série, hein, sauf si le succès est au rendez-vous et qu'il décide d'en faire une deuxième saison. C'est Ten Grand, deuxième volume, les épisodes 7 à 12 de cette série qui a eu un petit problème de sortie, en tout cas au début, hein, suite à un dessinateur qui s'est absenté.
Qui est mort, hein, qui est mort tout simplement.
Qui s'est absenté de façon très prolongée. Ça vaut $15 pour la suite et fin de cette première partie de la série, en tout cas, à voir s'il y aura une suite. Trees numéro 1, la nouvelle série de Warren Ellis et Jason Howard, sort en TP. Je n'ai pas par contre le nombre d'épisodes, je crois que c'est les 6 premiers. Ouais, voilà, c'est ça, les 6 premiers, c'est pour ça que ça sort au prix de $15. Donc pas de prix découverte hein, cette fois-ci. Très bonne série où, 10 ans après que les extraterrestres aient atterri, des espèces de grands piliers qu'ils ont appelés un peu tous les arbres, les fameux trees, ont poussé un peu partout et la population s'est organisée un petit peu autour de ça. Il y a des choses bizarres, des expériences à la The Thing, plus plein d'autres personnages hyper intéressants.
C'est pour ça, ces piliers que je vois dehors, c'est des arbres.
Donc Warren Ellis est au scénario et Jason Howard est au dessin. Jason Howard, qu'on ne reconnaît pas après l'avoir vu sur Super Dinosaur ou Astonishing Wolfman notamment, n'a rien à voir
ça
dans le
style.
Rien
à voir.
On termine avec des bouquins un petit peu autres, dont je voulais parler. On a chez Dynamite Frank Thorne, Red Sonja Arts, vraiment des pleines pages hein, de dessins de Red Sonja par Frank Thorne. C'est un gros bouquin, c'est du hardcover, c'est le deuxième volume, puisqu'il y a eu déjà un premier volume sorti, une art édition. Ça vaut $150.
L'équivalent des artistes éditions d'IDW.
Voilà. Autre artiste édition, enfin autre art édition en tout cas, c'est Art of Army of Darkness qui est sorti cette semaine à $40 chez Dynamite, qui va reprendre justement pas mal de dessins de la série Army of Darkness qui était parue chez Dynamite. Voilà, c'est du hardcover, il y a du Scott Campbell, il y a du Arthur Swedham, du Nick Bradshaw, du John Bolton, du Ben Tappesmith, Tim Seeley, George Perez et encore plein d'autres. Si vous aimez les dessins tirés de Army of Darkness. Voir H dans toutes les positions possibles, c'est cool quand même.
Oui.
Enfin, un dernier bouquin qui n'a absolument rien à voir avec le comics, mais je voulais le mentionner, puisque c'est une icône geek quand même. Ça s'appelle Early Photographs of Betty Page American Icon. C'est du soft cover, ça vaut $20. Sorti chez Binary Publication. Pardon. Voilà, c'est un recueil de photos des premiers travaux de Betty Page. Voilà, icône s'il en est, je crois.
Voilà, qu'on a pu voir dans Rocketeer.
Je crois que ça sort le 25. Hein,
oui, alors moi je l'ai crédité de cette semaine, mais apparemment il y a une date de sortie le 25, donc faites ce que vous voulez, précommandez-le si vous le souhaitez. Voilà. On passe à DC maintenant. Parce que Betty Page, donc Harley Quinn. N'est-ce pas,
Denis ? Oui, avec ce numéro spécial Saint-Valentin d'Harley Quinn, avec Amanda Connor et Jimmy Palmiotti donc au scénario, comme souvent avec Harley Quinn. Et John Timms est au dessin, la colorisation est de Ben Caldwell. Il y a aussi du Aaron Campbell d'ailleurs au dessin, du Tony Silas, et puis un autre coloriste du coup, Paul Muntz aussi qui fait la colorisation, parce que bon bah c'est un numéro double, hein, voilà. Donc il y a plusieurs artistes. Alors le scénario est assez simple. Il y a une espèce d'enchère particulière qui est organisée à Gotham pour lever des fonds pour une association caritative, pardon. Donc en fait le grand prix hein, de cette enchère, c'est un dîner avec Bruce Wayne. Harley Quinn, eh bien, voudrait remporter donc ces enchères pour pouvoir passer un moment avec Bruce Wayne, parce que pour elle, c'est le gendre idéal. Et voilà, donc elle a vraiment envie de j'entends Bruno se marrer.
Si elle savait.
Je sais pas pourquoi oui, non mais parce que c'est un peu con ce que je dis en même temps. C'est l'homme parfait quoi. Le genre.
C'est vrai que je viens de réagir à ce que tu viens de dire là, juste à son moment. Harley Quinn trouve que c'est le genre idéal. Effectivement, je viens de comprendre. Merci Bruno de pas avoir laissé passer ça.
Ouais, c'est la fatigue. Voilà. Donc le mari parfait. Voilà. Et il fait très bien aussi les carottes râpées, Bruce Wayne. C'est vraiment marrant cet épisode, d'autant que moi j'avais l'impression, cela dit, d'avoir déjà vu ce scénario dans la série télé. Alors peut-être que je me trompe, mais le coup d'Harley Quinn qui veut séduire Bruce Wayne, j'ai pas l'impression que ce soit un truc si nouveau que ça. Toujours est-il que évidemment Bruce va avoir bien des problèmes ensuite pour faire honorer en fait ce contrat
pour
quoi.
Honorer Harley Quinn,
voilà. Et on a des scènes, on a notamment une qui est hilarante où Harley Quinn fantasme au fait la vie qu'elle va mener ensuite en tandem avec Bruce Wayne. Alors apparemment elle doit bien savoir que c'est Batman, puisqu'elle imagine être le comment dire, de remplacer Robin au fait aux côtés de Batman. Donc c'est complètement barré et c'est plutôt drôle. Alors tout n'est pas hilarant. Disons que c'est beaucoup mieux qu'un Squirrel Girl. C'est un petit peu inférieur en termes d'humour à un Superior Foes of Spider-Man. Ça n'atteint pas ce degré d'humour où vraiment je me marrais énormément à la lecture de ces épisodes. Là c'est un peu bon, c'est plus gentillé quoi, on va dire. C'est plus grand public. Mais quoique, il y a quand même quelques trucs un petit peu osés. Mais voilà, il y a notamment une blague qui m'a fait bien marrer. Attends, j'essaie de retrouver ça parce que le numéro, comme je l'ai dit, est assez ample. Est-ce que je vais retrouver? Oui, voilà, c'est ça. Elle est au lit avec Bruce Wayne et elle lui demande au fait, tu sais, qu'est-ce que c'est tous ces noms au fait que Bruce dit durant son sommeil. Alors elle dit Julie, Selina, Vicky, June, Diane, Pamela, Talia, Silver, Rachel, Natalia, Jezebel, Vesper, Chandra, Sacha, Amanda Connor. Alors bon, mis à part Amanda Connor qui est l'une des scénaristes, tous les noms qu'elle sort, c'est quand même toutes les conquêtes que Bruce a eues durant toute sa carrière. Donc c'est vraiment drôle quoi, ce clin d'œil à toutes les femmes avec lesquelles il est sorti à un moment ou un autre. Ils sont quand même allés chercher loin quoi. Donc voilà, et Bruce sort une espèce de alors l'excuse la plus pourrie de la terre. Il dit ah non mais je pensais dans mon sommeil au nom qu'on pourrait donner à notre futur enfant si on avait une fille. Voilà. Donc ça c'est assez drôle. Enfin voilà, moi j'ai passé vraiment un bon moment à lire ça. Ça aurait pu être un épisode classique en même temps de la série Harley Quinn, hein, honnêtement. On reste dans le même type d'humour et le même type d'ambiance. C'est pas vraiment Saint-Valentin, en fait c'est un petit peu prétexte cette histoire de Saint-Valentin, parce que hormis la pseudo-amourette qu'a Harley Quinn pour Bruce Wayne, ça parle pas plus de la Saint-Valentin que ça, quoi. C'est pas vraiment.
Non mais c'est un numéro le sur principal. Le thème de c'est un numéro sur le thème de l'amour pour la Saint-Valentin, je pense que c'était peut-être le mieux quoi.
Oui, enfin je dirais même pas que c'est le thème de l'amour, parce que Harley Quinn est pas vraiment amoureuse quoi, c'est plus une espèce d'obsession qu'elle a de remporter cette occasion et puis c'est tout quoi. Mais bon, et puis il y a aussi un méchant dont j'ai pas parlé, le Carp Master, je crois, qui est pour la sauvegarde des poissons, une espèce de de méchant avec un sidekick, je crois qu'il s'appelle Fishboy, qui est vraiment vraiment ridicule. Évidemment, on se doute qu'il est là surtout pour faire marrer. Et c'est vraiment deux gros losers, quoi. C'est pire que les Spider-Foes of Spider-Man pour l'occasion. Voilà. Donc non, mais franchement, un bon bail pour cet épisode spécial Saint-Valentin.
Deuxième et dernière review de DC cette semaine, c'est le Secret Six numéro 2, Bruno.
Oui, c'est écrit par Gail Simon avec au dessin Ken Lashley, un numéro qui est arrivé un peu en retard.
Ah ben un peu en retard, oui, c'est quand je me suis remis dedans, j'avais du mal à me dire, voilà, mais putain, mais quand est-ce que j'avais lu
le... numéro précédent était sorti début décembre, si je me souviens bien, enfin courant décembre. Donc on va suivre toujours ce groupe de personnages qui s'est fait capturer par une organisation assez... inconnu, un groupe de personnages qui est composé entre autres de Black Alice, Catman, Strix, on a le ventriloquiste et d'autres personnages.
La ventriloquiste.
Ouais, c'est la nouvelle. Ouais, la nouvelle. Celle qui avait justement été introduite par Gail Simon dans Bad Girl.
C'est ça, celle qui est très très sexy, on va dire. Et donc.
Bah, elle est bonne aussi, ça a été la Saint-Valentin cette semaine.
Elle est bonne. Elle est bonne, hein. C'est
le fantasme de Bunny.
C'est ça.
Ah non, pas du tout.
Il aurait tellement aimé être à la place de Catman cette semaine.
Ils ont été rassemblés dans une pièce spéciale qui en fait s'est révélée à la fin du premier numéro comme étant une sorte de cercueil qui est sous la mer.
Et c'est le principe des cercueils en général.
On leur demande de sous la mer, pas la terre.
Oui, mais t'as dit sous la terre. Oui, bah, et puis c'est tout. Et puis bisque rage.
Voilà. Et puis c'est tout. Et donc en fait on leur pose une question. Quel est le secret? Et donc il faut qu'ils répondent à cette question, et si jamais ils ne répondent pas à cette question, eh bien ils vont être obligés de choisir quelqu'un qu'ils vont sacrifier, voilà, parce que c'est comme un jeu, un peu comme dans Saw, voilà, il y a une personne mystérieuse qui leur fait subir des épreuves.
On a l'impression que c'est la question qui est pas complète, c'est quelle est la couleur, et puis voilà, c'est ça.
Bah, c'est Secret Story, quoi, en fait. C'est ça. Il faut découvrir le secret de ce comics.
Putain, j'ai même pas capté la référence. J'ai marqué le temps, d'accord.
Voilà. Et donc en fait, ce numéro, ça va surtout s'intéresser à découvrir ce qui est arrivé à Catman pendant les 2 années qui précèdent l'aventure là. Et on va découvrir qu'il a été dans une situation assez
chier sa race.
Ouais, il a été dans une situation assez inconfortable. Situation qui reste elle aussi encore très mystérieuse, mais probablement liée au fait qu'il ait été capturé et qu'il soit présent dans cette pièce avec les autres personnages. Moi, il y a vraiment ce côté saut qui continue avec ce côté grim and gritty. En plus,
il y a un côté cube avec le fait qu'ils soient enfermés, je trouve. Enfin, ouais. Je sais pas, moi, j'ai vraiment ce côté cube aussi.
Cube et saut, ouais, exactement.
Ouais. Cube de Marie, là.
Graphiquement, c'est aussi un peu crado, donc c'est pas très très. En fait, les personnages sont un peu crades. C'est pas trop mal au niveau des dialogues, mais on voit pas trop où ils veulent en venir en fait avec ce titre. Et pour l'instant, je suis quand même encore assez dubitatif sur la suite de cette histoire.
Honnêtement, ce retard n'a absolument pas aidé. Moi, ça m'a fait vraiment tout l'effet inverse. J'ai eu du mal à me remettre dedans. Autant j'aime bien, j'avais beaucoup aimé le premier épisode, j'avais super envie de lire la suite, et là, ce retard m'a plombé, quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Ça n'a vraiment pas aidé à ce que je rentre dedans, et du coup je commence à n'avoir un peu rien à foutre des personnages qui crèvent ou qui restent en vie. Bon, ça revient vite, mais merde, quoi. Lancer un titre et qu'il y a un retard dès le 2, ça pue. Franchement, ça pue. Là, DC a merdé sur ce coup-là. Bon. Sorti de là, l'épisode est bien. Moi, j'ai bien aimé malgré tout.
C'est pas mal. C'est pas mal. C'est intriguant quand même, on a envie de savoir le fameux
titre. C'est vrai que. Où est-ce que ça va, quoi? Bunny, t'en as pensé quoi?
Bah moi j'ai bien aimé. Alors j'avais pas lu le premier. Et d'ailleurs je me suis même demandé d'où ça sort, quoi, ce numéro 2, puisque je suis complètement passé à côté du premier. C'était peut-être une semaine à laquelle j'avais pas participé, je sais pas. Mais en tout cas, je suis complètement passé à côté du premier. Et donc je vois ce numéro 2, je me dis tiens, j'ai pas vu le numéro 1 le mois dernier, donc là je comprends maintenant mieux pourquoi. Mais en tout cas j'ai plutôt bien aimé. Même s'il y a un côté un peu trop encore, mais c'est toujours le problème avec Gail Simon, il y a un côté un peu trop grim and gritty, poussé à l'extrême, un peu trop crasseux, enfin je veux dire vraiment, là ce qu'ils ont fait subir à Catman, je veux dire voilà quoi, c'est un peu too much par moment, on a envie de dire bon allez, on va peut-être passer à autre chose, Est-ce que ça va s'arrêter, quoi? C'est, ça n'a pas grand intérêt, quoi, franchement, de voir un gars, tu sais, pratiquement être enfermé avec ses excréments pendant X temps. Bon.
Enfin, voilà, on attend. Je confirme que tu étais là la semaine où on a parlé. C'était la même semaine que la sortie d'Angela.
L'autre, il est allé vérifier.
Ouais, carrément. Ouais. Et puis, de toute façon, il y a eu Men of Wrath de chroniquer, donc forcément, t'étais là, quoi.
Ouais. Mais en tout cas, voilà, bah, j'étais passé à côté donc du premier, et bon, j'ai plutôt bien aimé, même si faudrait qu'elle, je sais pas, elle doit vraiment avoir un problème avec tout ce qui est torture porn, parce que elle est vraiment dans ce registre là depuis qu'elle a repris Bad Girl avec les New 52, et bon, c'est, je sais pas, c'est un peu trop, quoi. Ce serait mieux si c'était pas autant extrême que ça, et voilà, je trouve que ça gagnerait en, c'est un côté un peu ridicule, au fait.
On a droit à la page la plus moche quand même, avec la dernière page. Je sais pas ce qui s'est passé, l'encreur a changé sans doute, mais je suis encore traumatisé par les différents personnages qu'on voit sur cette dernière page. Je sais pas si ça vous a marqué, les gars, mais
je sais pas, j'ai pas fait spécialement attention.
La tronche de Catman et de la ventriloquiste est assez extraordinaire, tout comme la.
Mais ça explique peut-être ses retards.
Ouais. Donc graphiquement, je trouve que c'est aussi assez. Dans le premier numéro aussi, on avait
c'est
vu
inégal.
Vers la fin, ça devenait très inégal. Il y a des moments, c'est très joli, mais là, on en a parlé hier dans l'émission. On va avoir un changement de dessinateur avec le retour du dessinateur de la série précédente en la personne de Dale Eaglesham. Je pense que ce sera peut-être plus sympa. Mais là, pour l'instant, c'est quand même assez moyen, on va dire, au niveau du dessin.
Ouais, c'est dommage, parce que enfin la série reste intrigante, quoi. C'est ça qui est emmerdant. J'ai envie de lui donner encore une bonne note, mais le retard, les dessins inégaux, il y a quand même des petites choses gênantes.
C'est au moins une série qu'on sait qui va continuer après Convergence. Donc il y a encore pas mal de choses à découvrir sur ce titre.
Ouais, bah, espérons que ça se reprenne bien en main. Donc
un check-it.
Pareil.
Ouais, un check-it. Un bon check-it, on va dire.
Ouais, bon check-it, mais check-it néanmoins. Mais justement, si vous voulez vérifier ce qu'était Secret Six avant le passage New 52, est sorti cette semaine Secret Six TPB qui s'appelle Villains United. Ça date donc de l'ancien univers. Et c'était les Villains United 1 à 6 qui amenaient à Infinite Crisis. Et puis la première mini-série sur les Secret Six avant que la série régulière soit lancée par la suite. On a aussi à l'intérieur le Villains United Infinite Crisis Special numéro 1.
Ça c'est plutôt cool parce que j'avais beaucoup aimé justement Villains United. Et la série Secret Six a une bonne aura en fait, avec des personnages assez intéressants. Et a priori, c'était vraiment un des titres les plus sympas à lire avant Flashpoint. Et donc je suis curieux de lire ça. Ouais.
C'est au prix de 20$, c'est du Gail Simon au scénario. Et on a du Dale Eaglesham et du Brad Walker au dessin. On a aussi cette semaine en TP chez DC Batman Dark Knight Dark City, un ancien arc. Dark Knight Dark City, qui était paru dans Batman 452 à 454 pardon, et Detective Comics 629 à 633. C'est du Peter Milligan, on a aussi du Kieron Dwyer au dessin, et du Mac Mignola aussi, au cover notamment. Ouais. Du Jim Aparo, du Tom Mandrake, du Denis Jank, il y a pas mal de monde dessus. Ça vaut 17$, vraiment du vieux matos, quoi.
Ouais, je crois que je l'avais lu et que c'était pas trop mal. Il me semble. Enfin, le titre me rappelle quelque chose.
Batman contre le Riddler et puis qui se transforme en énorme bête.
Ah oui. Attends, le Riddler, c'était pas l'épouvantail ?
Non, le Riddler. Oh,
je sais plus. Ah oui, d'accord.
Si vous avez lu Batman mais vous voulez du plus récent, le dernier volume de The Dark Knight est sorti, la série de Greg Hurwitz avec Alex Maliv au dessin. Les épisodes 22 à 29 qui ne sont pas encore prévus en français pour le moment. C'est au prix de 17$. Le dernier TP s'appelle Clé, pardon. Ouais. S'appelle Arc. Ça s'appelle Arc. Oui, non, sans déconner. Tiens, je pensais que c'était sur Killer Clé, moi. Killer
Clé. Moi, je pensais que c'était sur le maître des clés, au fait.
C'était sur Passepartout.
Passons à du Vertigo Coffin Hill, deuxième TP. Le premier TP vient de sortir en français le mois dernier. Si vous voulez tout de suite découvrir la suite, c'est possible, directement en VO. Caitlin Kittredge est au dessin, au scénario, pardon, Inaki Miranda au dessin, les épisodes 8 à 14 au prix de $15. Très bonne série, hein, Coffin Hill. Nous avons de ressorti cette semaine aussi DC The New Frontier en Deluxe édition. Yes. C'est du Darwin Cook. Ça vaut $50. Ça reprend la mini-série complète en 6 épisodes dans une très 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 bel objet.
C'est un must-buy. Une très très bonne mini-série. Et avec, je crois, une cinquantaine de pages inédites jusqu'à présent en volume relié.
Oui, c'est le fameux Justice League The New Frontier Special numéro 1. Nous avons aussi du Fable, mais cette fois-ci c'est un recueil de numéros, c'est un artbook. Ce sont les Complete Covers par James Jean, nouvelle édition, puisque plus de covers encore, hein, la série venant de s'achever.
Super belle.
Ça vaut $50, superbe objet en effet. Ça reprend toutes les covers que James Jean a fait pour Fable, et il y en a un paquet.
Ouais, à peu près une centaine. Il s'est arrêté, je crois, un petit peu avant le numéro 100.
Nous avons ensuite quelque chose qui était sorti d'abord en digital, qui s'appelle Scribblenaut Unmasked, qui est recollecté dans ce TP à $15. Si vous aimez l'univers de Scribblenaut, c'est le Scribblenaut avec DC. La série s'appelait Scribblenaut Unmasked, A Crisis of Imagination. Voilà.
Je l'avais lu et c'était vraiment très drôle. Et je rappelle qu'on a un let's play de Scribblenaut Unmasked,
oh là là,
sur la page de Comic City.
Magique. Enfin, on termine par quelque chose qui est déjà sorti en français, si vous le voulez, en plus belle édition, relié, etc. C'est Superman Krypton Returns. Ce crossover qu'il y avait entre les séries Superboy, Supergirl et Superman aux alentours du numéro 25. Vous aurez donc les numéros 25 de ces trois séries, ainsi que les numéros 0. Le 23.3, le Superman 23.3 qui était sur Hell, ce personnage qui est au centre de ce crossover, ainsi que l'Action Comics Annual numéro 2. Tout ça a été sorti dans un kiosque spécial il y a quelques mois chez Urban, 6-8 mois à peu près, je crois que c'était au mois de juillet. Mois de juillet ou mois d'août. Ça vaut $25 là, pour la version hardcover. Moi, je vous conseille plutôt la version kiosque Urban, qui est beaucoup moins cher.
Tout à fait.
Voilà, c'est tout pour les TP de cette semaine et pour cette émission épique, hein, s'il en est.
Ouais.
Surtout pour ce démarrage, Tony
Truman, de Mister Ebony. Une intro magnifique, qui restera dans les annales.
Qui nous a fait notre petit sketch de la semaine. Oui.
Qui donne envie de manger des carottes râpées. Hein.
Oui, c'est vrai.
Mais définitivement, ce n'est pas ce que je mangerai ce soir. Merci, Bunny. Grâce à toi, je sais ce que je ne vais pas manger. Si vous voulez aussi ne pas avoir d'idée de menu, bien je vous conseille de revenir la semaine prochaine pour une prochaine dose de comics et de cuisine.
Et de blagues de bon goût.
Ouais, on appellera ça le cooking comics.
Les blagues de bon goût.
Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine dose de comics. Comme d'habitude, vous retrouverez mercredi le Weekly News en direct sur l'antenne de synopslife.net. Et dès le lendemain, si j'ai le temps de le monter, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui, mais je corrige ça, vous l'aurez dès demain, enfin dès hier, hein, finalement, au moment de la diffusion de cet épisode, le Weekly News de la semaine dernière. Puis vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, évidemment, @ComicCity, et bien sûr, nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Voilà.
Eh bien, à bientôt, et puis bon vendredi 13. Ah bah non, c'est trop tard, c'était passé. Bah bonne Saint-Valentin.
Ah putain, c'est vendredi 13, demain, ça rase, j'avais pas fait gaffe. Bon. Bah voilà, on va être dans le caca.
Ou alors, on va avoir beaucoup de chance.
Non. Non.
Peut-être qu'on aura gagné au loto, peut-être demain. Et on sera super multimillionnaire.
Et peut-être que justement, il n'y aura pas d'épisode. S'il n'y a pas d'épisode, c'est qu'on a gagné au loto et qu'on s'est cassé. Voilà. À la semaine prochaine, portez-vous bien et surtout, faites des bébés. C'est la saison.
Faites des bébés, mais pourquoi?
Bah, faites l'amour, quoi. C'était pour la plus classe, Bruno.
Allez, ciao, ciao. Ouh, je suis le loup-garou. And you're heading up to Brisbane.